Chapitre 11. À l'orphelinat. 5 semaines après le départ de Madame Fénigan avec la cousine Élise, un petit omnibus du chemin de fer, venu de Soisy par la corniche toute blanche et nappée d'une brume matinale de novembre, s'arrêtait devant le domaine des Uzelles. La cloche de la grille sonna 2 fois, comme étouffée par le brouillard. Au second coup seulement, Rosine Chuchin, son vieux père et le cocher, en train de déguster dans la loge de la jardinière un onctueux café au lait de vraie crème et de beurre du jour, arrivèrent tous trois à la grande porte, juste pour voir Madame Fénigan descendre seule, emmitouflée et somnolente, comme après une nuit de long voyage.
« Rosine, mon lit, je suis morte !»
dit la maîtresse traversant la cour, sans remarquer l'effarement de tous, non plus que les bols alignés et fumants sur la table de la loge restée ouverte. Il fallait qu'elle fût bien lasse. Peu à peu, cependant, la tiédeur de sa chambre et les habitudes retrouvées rendaient à la bonne dame assez de force et de vie pour pouvoir poser plusieurs questions à Rosine, en train d'aider la vieille chambrière habituelle.
« Alors, Monsieur Richard ?»«
Monsieur Richard est encore couché. Madame veut-elle que j'aille le prévenir ?»«
Non, je voulais seulement savoir s'il n'a rien changé à sa façon de vivre. »«
Rien du tout, madame. Il ne sort pas, se fait servir dans l'atelier où il passe ses journées à écrire des lettres et à tirer au pistolet, toujours en chantonnant comme il fait. Quelquefois, une promenade avec Monsieur Mérivet sous la charmille, et c'est tout. »
« Vous avez dû souvent voir l'abbé Cérès ici. »«
Mais non, c'est presque tout de suite après le départ de ces dames qu'il a eu sa dispute avec Monsieur le curé au sujet des Lucriots et qu'on l'a appelé à l'évêché de Versailles. Il n'est pas revenu depuis. »«
Pauvre Monsieur Cérès, » soupira Madame Fénigan avec un accent doucement navré, où se mêlait la sensation délicieuse d'étaler ses membres entre des draps parfumés, bassinés, dans un lit dont elle avait l'habitude. Rosine n'en revenait pas de trouver sa maîtresse si indulgente au vicaire des mendiants et des cheminots.
Ainsi, Richard n'est pas même sorti le dimanche, pas même jusqu'à la petite paroisse, pour faire plaisir à son vieil ami.
Mais madame, la petite paroisse est fermée. Monsieur Mérivet, après le départ de l'abbé Cérès, n'a pas permis que notre prêtre dît la messe à son église.
Voilà une chose bien extraordinaire, murmurait la vieille dame, dont le béat visage contrastait avec la prétendue stupeur que lui causaient toutes ces nouvelles.
La vérité est que, tenue au courant par les lettres du petit Napoléon, elle ne faisait guère en ce moment que constater, contrôler.
« Et dis-moi, Rosine, mon fils ne t'a jamais demandé où j'étais ?»«
Jamais. Monsieur Richard savait ce que madame nous a dit à tous, qu'elle allait se reposer au bord de la mer chez madame Élise. »
Rosine mentait effrontément, forte de ces 2 astuces superposées de paysanne et de domestique. Par monsieur Alexandre, elle avait appris le suicide manqué de son ancienne dame et la présence là-bas de la belle-mère, qu'elle s'étonnait de voir revenir seule, son retour indiquant la guérison de Lydie. Elle connaissait aussi les transes où l'on vivait à Grosbourg, les efforts pour intercepter les provocations continuelles de Richard. Elle eût même pu renseigner madame Fénigan sur le minutieux espionnage dont Alexandre entourait, par ordre, la correspondance de son fils. Mais depuis un moment, la bonne dame semblait lasse, distraite, n'écoutant que d'une oreille les histoires qui, d'ordinaire, la passionnaient le plus, comme les méfaits des Loirs et de son jardinier Clément. Après s'être fait apporter un bol de lait chaud, qui ne ressemblait guère à celui que l'on buvait en bas tout à l'heure, elle congédia Rosine Chuchin, préférant à ses tournillements bavards devant le lit, la joie de se sentir seule dans cette chambre pleine de souvenirs, de se bercer à la mélancolie des cris d'automne qui passaient sur la route embrumée.
« Peau de lapin ! Chiffon ! Ferraille à vendre !»
Depuis plus de 30 ans, elle entendait la même voix de femme, voilée et douce, promener cette mélopée matinale, seulement dans les mois de froidure, la chiffonnière campagnarde étant prise par les travaux de la terre pendant le printemps et l'été.
Et dans le demi-sommeil, cette voix qui s'éloignait, mêlée à des époques diverses et très anciennes de sa vie, lui semblait traîner des fagots de souvenirs et d'heures mortes.
« Chiffon ! Ferraille à vendre !»
Deux coups rapides et connus, frappés à la porte, lui firent bondir le cœur, rouvrir ses yeux qui clignotaient.
« C'est toi, Richard ! Entre !»
Il s'était quitté froidement, sur un frôlement de joues, sans un mot. En 5 semaines d'absence, pas une lettre échangée. Maintenant encore, en voyant ce visage froid et dur, ses yeux de colère qui se détournaient d'elle, la mère comprenait que leur fâcherie durait toujours. Mais au lieu de s'attrister, elle souriait et, le retenant par la main malgré lui, le faisait asseoir au bord de son lit, en ayant long, très long à lui raconter.
« Plus tard, mère, plus tard. À présent, tu es trop lasse. »«
Non, puisque je te tiens, j'aime mieux tout de suite. Reste là et écoute. » Doucement, simplement, elle commençait l'histoire de son voyage à Quiberon. Comment cette pensée lui était venue, après leur scène épouvantable dans la serre, avec la conviction profonde que les reproches de son fils disaient vrai, que pour Lydie comme pour d'autres, elle avait manqué d'indulgence, de tendresse, et qu'elle devait essayer de réparer une partie du mal causé par elle. Puis son arrivée dans le petit village, pas loin de l'Orient, où se cachait la jeune femme, quelques jours d'attente et de surveillance, et enfin quand, touchée de cette existence solitaire et digne, de cet abandon fièrement porté, elle venait un matin frapper à la maison jaune, sa stupeur d'y trouver Lydie agonisante, aux mains inexpertes d'un médecin de campagne, dont les petits couteaux tailladaient en tremblant cette poitrine blonde et rose pour en extraire une balle de revolver. Immobile, Richard écoutait, la tête basse et détournée, comme pour cacher ses impressions, dont la mère ne se rendait compte que par la main qu'elle tenait, cette main d'abord revêche, peu à peu détendue, humanisée, finissant ensuite par s'abandonner, devenir, comme quand il était petit, la main confiante et tendre de l'enfant qui se cramponne à la mère. « Conduis-moi, ne me lâche pas !» Livrée à cet obscur vétérinaire, jamais Lydie n'aurait survécu si, par bonheur, la flotte ne s'était trouvée là et, avec la flotte, des chirurgiens, de la glace, des ouates féniquées, tous les antiseptiques sauveurs, libéralement mise au service de la blessée, grâce à Élise, pour qui les officiers du corps de santé étaient tous des amis. Et oui, Élise, le bon petit chaperon rouge, qu'on n'eût jamais supposé capable de charité continue, de dévouement, de discrétion. Élise, passant les journées et les nuits au chevet de sa rivale, de son ennemi, et disparaissant dès que Lydie commença à renaître et à reconnaître. À peine sortie des fantomatiques apparitions de la fièvre, le premier visage réel et vivant qui se dressait près de son lit, c'était le plus exécré, celui qu'elle chargeait de sa rancune et de ses fautes, sa belle-mère. Il avait fallu ramener de loin cet âme ulcérée, encore sous le coup de sa dernière déception si féroce, et se débattant contre la tendresse et les soins qui venaient à elle.
« Non, laissez, je suis indigne !» « Ni vous, ni votre fils ne pourrez jamais oublier. D'abord, si vous me pardonniez, moi, je ne me pardonnerai pas. Je veux mourir. De quel droit m'empêchez-vous de mourir, méchante femme ?»
Exprès, elle cherchait des paroles outrageantes, remuait des souvenirs brûlants, cendres en feu sur ses propres blessures. Heureusement, ce n'est pas à une belle-mère qu'elle parlait, mais à une vraie mère, cœur patient et sans orgueil, plus aucun orgueil et qui tout le temps songeait
« Le mal que j'ai fait, il est bon que je le répare. »
Oh, la main de Richard, comme elle tremblait maintenant et serrait tendrement la main qui la tenait. De jour en jour, à force de douceur, de patience, Lydie reprenait goût à la vie, se laissait soigner, quoiqu'une sombreur restât au fond de ses beaux yeux et qu'elle s'entêta à dire « Madame », à celle qui ne l'appelait jamais autrement que « ma fille ». Surtout, elle se révoltait contre cette humiliante idée de pardon. Et il fallut, pour faire cesser ses résistances, le retour de M. Alexandre, envoyé par les gens de Grosbourg en règlement des frais de rupture. De sa chambre, la malade entendait l'accent de hauteur insolente et indignée dont Madame Fénigan congédiait le sinistre émissaire et l'engageait à remporter bien vite son argent à la duchesse.
Car si riche et si avare qu'elle fût, elle n'en aurait jamais assez de cet ignoble argent pour acheter les folies et les crimes de son fils.
Tout émue de se sentir ainsi protégée et vengée, Lydie, quand sa belle-mère rentra dans la chambre, lui tendit les bras en pleurant.
« Merci, ma mère !»
Ce mot de mère, qu'elle se décidait à prononcer, noua la réconciliation. Ce ne fut plus entre elles qu'une question de temps, de soins, chaque jour Madame Fénigan devenant plus tendre, se convainquant que la faute de Lydie avait été toute de révolte et d'indépendance, l'affolement d'une nature faite pour l'air libre et l'espace, et qui se croit emprisonnée. Un cœur aussi droit, aussi affectueux que le sien, ne pouvait conserver d'un garçon cruel et froid comme Charlet qu'un odieux souvenir. Pas de rechute à craindre de ce côté, ni regret, ni reprise possible, mais l'idée d'une rentrée dans la vie normale, d'un retour au foyer, concernait la jeune femme. Se retrouver en face de Richard, pour qui elle avait été si dure, si méchante, pourrait-il oublier jamais ? Madame Fénigan essayait de la rassurer.
« Mais puisqu'il vous aime et vous plaint, qu'il n'a cessé un jour de vous aimer !»
Lydie secouait la tête.
« Si vous en étiez tellement sûre, pourquoi lui cacher que vous veniez près de moi ?»
Rien de contagieux comme la peur. À voir sa belle-fille si craintive, Madame Fénigan doutait aussi, et la trouvant assez remise pour se passer d'elle, se décidait à revenir seule, dire à Richard
« Voilà ce que j'ai fait. J'ai laissé espérer à ta femme que vous pourriez encore vivre et être heureuse ensemble. Qu'en penses-tu ?»
Dans la chambre, un silence de mort. Le visage de Richard, toujours invisible, et sa main toujours cramponnée, brûlante et tremblante, à celle de sa mère. Une fois encore, Madame Fénigan répéta tout bas.
Qu'en penses-tu? Ai-je bien fait?
Richard, sans répondre, s'agenouilla devant le lit en sanglotant. Quoiqu'elle s'attendît à cette explosion de reconnaissance, la mère rayonnait, payée de toute sa peine. Mais quelque chose la surprenait, et tout en fourrageant à pleines mains les cheveux courts et drus de son garçon, elle se disait
« Pourquoi ne me demande-t-il pas sa femme tout de suite ?»
Elle sentait un trouble, une gêne, dont l'explication lui fut donnée par deux mots que murmura Richard, les yeux timidement levés.
« Et l'enfant ? Il n'y en a pas.
Il est mort ?
Il n'a pas vécu. »
D'un élan, il fut debout et, sur le cœur de sa mère,
« Oh, le bien que tu me fais ! Si tu savais, cet enfant, moi qui en avais tant désiré !» Jamais un rapprochement n'eût été possible avec cela entre nous. Je le sentais si bien que, malgré mon désir fou de la revoir, je n'ai pas un instant essayé de m'informer où elle était. Oh, cet enfant, j'y pensais encore plus qu'à elle. »
Et tout bas, il lui racontait qu'en son absence, un matin, au petit jour, d'effroyables hurlements, comme d'une bête égorgée, l'avaient réveillée, précipitée de son lit vers la fenêtre. Cela venait de la ferme voisine, très calme cependant, s'éveillant à l'habitude parmi les appels de ses coqs, la claironnée des pans sur leur perchoir, la sourde bramée des bœufs au fond de l'étable chaude. Bientôt, dans cette plainte lente, douloureuse, qui lui faisait tant de peine à entendre, clameur immense par instant à remplir le ciel, à d'autres gémissements berceurs et doux, il démêlait un cri humain, un cri de femme, et comprenaient que la fermière, leur voisine, accouchait. C'était grand, l'arrivée de cet être dans la brume rose du jour naissant, cette plainte de femme en gésine, mêlée à des réveils de basse-cour, à des bruits matineux de nature, devenant un cri animal, moins encore, l'effort d'un rouage dans la vaste et mystérieuse machine en fonction. Tout à coup, songeant à sa pauvre Lydie, qui, peut-être à la même heure, passait par les mêmes tortures, il avait été pris d'un grand désespoir.
« Ah, si tu m'avais vu pleurer à ma fenêtre, je devais être bien comique. Mais maintenant, finis les larmes. et grâce à toi, mère adorée, ma femme va me revenir. Je pourrai la revoir. Même, je m'étonne que tu ne l'aies pas ramenée. Pourquoi ?
Elle était bien faible encore. »
Madame Fenigan détournait les yeux avec embarras. Elle ne savait pas bien mentir. Son fils continua.
« Il doit être si lugubre, ce petit port à Liguen, aux approches de l'hiver. Vois-tu que ses idées noires la reprennent ?»«
Mais enfin, méchant garçon, il fallait bien que je revienne. On m'écrivait que tu t'acharnais à ce duel, qu'à Grosbourg ils passaient leur vie à guetter, à dépister tes lettres. »
Et le serrant contre elle de toute la tendresse de ses bras, la mère, qui se sentait forte, hâtait ses paroles suppliantes.
« Mon Richard, si loyal, si bon, comment n'as-tu pas pitié de ce père, de ce soldat foudroyé en pleine gloire et qui, sur son fauteuil de paralytique, reçoit tous les outrages, tous les crachats que tu destines à son fils? Imagine-t-on une détresse plus complète? Forcé d'abdiquer son rôle de chef de famille, de défenseur, réduit aux petites lâchetés, aux habiletés de la femme qui surveille les courriers, soudoie les facteurs? Le malheureux, mais il en meurt de ne pouvoir se battre et mourir pour son fils. Et tu ne t'es pas laissé attendrir. »
Richard, s'arrachant à l'étreinte maternelle, marchait par la chambre.
« Oui, je sais, notre vieil ami est venu me dire à satiété toutes ces choses, et je te répondrai comme à lui que ces gens m'ont fait trop de mal pour que je puisse avoir pitié d'eux. Tous, le fils, le père. Ah, ce que j'ai souffert !»
Tu as souffert surtout dans ton orgueil. Mais une mère qui craint qu'on lui tue son enfant.
Des histoires du vieux Mérivée que tu me racontes là, dit Richard doucement. De qui crois-tu donc que je le tiens, cet orgueil que tu me reproches?
De ta mère, n'est-ce pas? Eh bien, fais comme moi qui me suis débarrassé du mien.
Comment?
Oh, c'est bien simple. Je suis entré à la petite paroisse. Ne ris pas, l'effet a été miraculeux. J'étais une autre femme en sortant de là, avec une façon de voir et de sentir toute différente, toute nouvelle. Pourquoi? Je ne sais pas.
Plus ému qu'il ne voulait le paraître, Richard riposta d'un ton léger.
Le malheur, c'est que la petite paroisse chôme depuis un mois.
Elle, alors, sans le quitter des yeux,
en effet, j'ai appris cette navrante aventure. Comme on a été injuste pour ce digne prêtre. Tu t'es occupé de lui, tu es allé voir Monseigneur. J'en ai été très heureuse.
Vrai, c'est vrai?
Sa bonne figure resplendissait, stupéfaite. Sachant sa mère amie du curé de Draveil, il craignait de lui avoir déplu par sa démarche auprès de l'évêque. Mais la calomnie était trop infâme. Dire qu'on accusait l'abbé Cérès pendant qu'il recueillait chez lui la vieille mère et les trois filles de Lucrio en prison pour braconnage, d'avoir eu la toute petite comme maîtresse.
Ça te fait sauter d'indignation?
Oui, cet enfant sans âge, presque sans sexe, nouée, scrofuleuse, épileptique, voilà la tentation à laquelle n'aurait pu résister cet homme admirable, ce saint. Aucune preuve, naturellement, que le séjour plusieurs semaines sous le même toit. Et quand je pense que toute cette hideuse campagne est montée par ce curé mondain et freluqué, ce parasite des tables riches où il faisait inviter sa gouvernante.
Madame Fenigan, peut-être avait-elle quelques invitations de ce genre à se reprocher, interrompit son fils vivement.
Et que t'a répondu, Monseigneur ?
Un mandement en plusieurs pages avec citation de Tertullien. Monsieur le curé est un pasteur vénérable, monsieur le vicaire un grand vieil enfant très bon. En attendant, on fait faire à notre vieil ami une retraite de 3 mois à la Trappe d'Aiguebelle, tandis que monsieur le curé promène dans les châteaux une pétition pour débarrasser le pays de ce prêtre qui n'aime et ne fréquente que les mendiants et les vagabonds. Il n'y manque que ta signature pour laquelle le curé attendait ton retour.
Qu'il vienne, il sera reçu.
Tu ne signeras pas, dit Richard avec transport.
Eh bien moi, je te promets que si ces canailles d'en face me laissent tranquille, je ne m'occuperai plus d'eux. Ils te laisseront, je te le jure. Maintenant, donne ta grosse tête que je la câline encore et va-t'en, il faut que je dorme. C'est que j'aurais bien voulu... Lydie ne peut pas rester seule là-bas, tu comprends ?
Et la mère en souriant.
Oui, oui, je comprends. Nous causerons de cela à dîner. J'ai besoin d'une journée de repos. Va, mon chéri.
Rester enfermé dans l'atelier jusqu'au soir parut à Richard insupportable et, pour la première fois depuis longtemps, par la grille ouverte sur la forêt, cette grille témoin de la fuite de Lydie, il sortit avec la ferme intention de ne rentrer qu'à la nuit. À cette époque, pourtant, la forêt n'était déjà plus belle, les grands souffles et les pluies de l'équinoxe la dépouillaient de ses dernières feuilles, recouvrant le sol d'un engrais jaunâtre et boueux. Les sous-bois, les fonds d'allées se dévêtaient de tout mystère, les perspectives se rapprochaient et, visibles de partout, l'interminable grillage des réserves de gros bourg donnait au petit sénat l'aspect d'une forêt en fil de fer. Le décor disparu avait disséminé l'orchestre. Ça et là, dans l'embroussaillement d'un taillis, un merle qui semblait énorme chantait et sautillait comme en cage. Des tourbillons de corbeaux passaient aux cimes des arbres et sur les anciennes carrières comblées d'eau de pluie s'ébattaient deux ou trois canards sauvages dont les nasillardes trompettes sonnaient dans le silence des allées. Mais Richard, ce jour-là, portait dans sa tête une fanfare éclatante qui l'accompagnait en marchant de ses basses habituelles « poum, poum, poum ». Seulement des « poum, poum », joyeux et fous, allègres comme le motif tout en trilles et en roulades, la chanson d'amour et de renouveau qui fredonnait autour de lui pendant qu'il se promenait dans une forêt imaginaire pleine de parfums, de lumière, de chants d'oiseaux. Il pourrait donc s'aimer sans lasser encore. Rien ne semblait irréparable à son cœur amoureux et déjà il ne sentait plus cette horrible brûlure, ce charbon rouge au creux de la poitrine qui lui contractait tous les muscles. Sa jalousie était guérie, s'appelait lavée dans les larmes et le sang de Lydie. Chère femme, qu'elle avait dû souffrir pour arriver au suicide, elle qui aimait tant la vie. Il ne s'agissait plus de pardon pour qui avait expié si férocement. Elle venait à lui avec une chair nouvelle, purifiée par la souffrance. Et ce serait bon de rouler sa tête là-dessus, de respirer cette odeur de jeunesse mûrissante, l'arôme de muguets et de violettes qu'exhalent les sous-bois vers la fin du printemps. « Sapristi, monsieur Richard, vous allongez le jarret de bonheur. Sait-il que vous êtes pressé de déjeuner ? Allons, entrez un moment à l'ermitage, vous casserez une croûte avec nous. » « Mais votre belle-fille ne sera peut-être pas contente, mon bon Eugène. »« Oh, que si fait ! Ça la changera pour une fois de ne pas manger seule en face de ma vieille peau. » L'Indien qui rentrait de sa première ronde, le fusil en bandoulière, un lapin dans son carnier, fit passer Richard par la porte Pacôme, une ancienne porte charretière du couvent, au cintre loup, aux ais vermoulus et disjoints, s'ouvrant au fond de la cour mangée d'herbe où dansait et se gobergeait, quelques mois auparavant, la noce du fils Sautecœur. Deux cabarets, déserts en semaine, et la maison du garde-chasse flanquée de son chenil odorant et bruyant, occupaient tout autour de ce préau rustique l'emplacement de l'ancien ermitage. Dans la salle proprette et claire, aux murs peints en détrempe de naïves histoires de chasse, où ils étaient en train de boire un verre de vieux genièvre en apéritif, la Bru vient les rejoindre, bien coiffée, presque élégante malgré l'heure matinale, mais les yeux rouges, un air de somnolence et d'ennui. En apercevant Richard Fénigan, au lieu du gendarme ou du bûcheron qu'elle s'attendait à trouver attablé avec son beau-père, ses yeux flambèrent, sa petite mine effrontée et maladive devint jolie du désir effréné de l'être.
« Quand je vous le disais !» chuchotait l'Indien en confidence derrière sa main géante, tandis que la coquette belle-fille se hâtait de mettre le couvert en les frôlant du coup de vent de ses jupes ou des rondeurs de son corsage. « Un bourgeois, monsieur, j'étais sûre de les moustiller avec ça. Et figurez-vous bien qu'elle a passé la nuit à pleurer, rapport à des boucles d'oreilles qu'on lui avait données et que j'ai rendues parce qu'en l'absence de mon garçon... Où est-il donc votre garçon, Eugène ?
Au régiment, monsieur Richard, en service supplémentaire. Il a la folie du métier de soldat jusqu'à se faire du tort à son magasin et, ce qu'il y a de pis, du tort aussi près de sa femme. Voilà qu'hier, en revenant de Grosbourg, où je l'avais envoyé porter des œufs de fourmi pour la faisanderie, la petite s'amène avec une paire de boucles d'or aux oreilles, en place des petites ferlampilles que je lui avais achetées justement à la fête d'hier. « Qui t'a donné ça ?» que je lui demande. « La duchesse, mon père. Moi qui sais que Notre-Dame n'est pas donnante, on peut dire ça de ses maîtres, n'est-ce pas, monsieur Richard ? Il n'y a pas de déshonneur. Je vois tout de suite d'où venait le cadeau. » Et dans l'après-midi, sans que la petite se méfie, j'arrive au château et je dis à la duchesse en train de causer sur le grand perron avec monsieur Alexandre. « Madame a bien voulu donner à ma fille un beau bijou. » Elle me regarde avec son air qu'elle a. « Moi, des bijoux à votre fille ?» Ce vieux filou d'Alexandre grimaçait pour l'avertir. Elle a fini par comprendre. « Ah oui, parfaitement, je me rappelle. » « Eh bien quoi, votre fille ne les trouve pas assez beaux ?»« 100 fois trop beaux pour chez nous, que je lui réponds bien en droiture. Et elle m'a chargé de vous les rendre, parce qu'une brave femme pas riche n'a pas le droit de se mettre sur elle des affutures de cette valeur. » La duchesse m'a répondu, « Merci, Eugène, vous pouvez vous retirer. » Mais tout de même, j'ai attendu M. Alexandre au coin du pont, pour le prévenir qu'à la première fois qu'il se chargerait d'une commission pareille, foi de saute-cœur, je lui ferais piquer une tête en scène avec une balle au milieu du front. Les petits yeux ronds du garde-chasse avaient pris une expression féroce. « Mais enfin, de qui venaient-elles ces boucles ?» demanda Richard qui se sentait pâlir. « De quelqu'un dont il vaut mieux que nous ne parlions pas, » dit le garde, comprenant tout à coup sa maladresse. « Dame, la petite n'a pas été contente. Toute la nuit, je l'ai entendue marronner. Puis, ce matin, on s'est expliqué à fond. Je l'ai prévenue. T'as quasiment deux maris, ma fille. Si l'un est aveugle et trop bon enfant, l'autre a de la méfiance et la poigne dure. Il faut marcher droit ou gare. » En grand tablier blanc, les manches retroussées, la saute-cœur apportait sur la table une omelette aux morilles qui embaumait toute la salle et gagnait jusqu'au chenil, où les bêtes affamées soufflaient sous la porte basse. Mais ni la saveur du plat rustique, ni les yeux coquins de l'hôtesse ne parvenaient à distraire Richard Fénigan de la sombre songerie brusquement évoquée par la silhouette du jeune prince, et plus d'une fois pendant le repas, Eugène, qui comptait aussi lentement qu'il mangeait, avec le lambinage paysan des journées longues et des vastes étendues, s'étonna d'entendre M. Richard, au plus beau moment de ses histoires d'affût de nuit à la bête ou à l'homme, chantonner comme un malhonnête. Pendant que son fils s'attardait à l'ermitage et la croyait profondément assoupie, Mme Fénigan, un de ces êtres d'activité qui ne peuvent dormir dans le jour, commandait la voiture et se faisait conduire à l'orphelinat de Soisy. Annoncé de très loin par les grands arbres de l'entrée et le clocher brodé de sa chapelle, le couvent, dont on recrépissait la façade, avait sa cour encombrée d'échelles, de charretées de plâtre, un va-et-vient de maçons et de manœuvres, que surveillait la cornette aux ailes blanches envolées, de sœur Martha l'Irlandaise, suppléant Mademoiselle de Bouron la supérieure, depuis longtemps malade et alitée. « Nous avons les ouvriers !» dit-elle à Madame Fénigan en venant au-devant d'elle. Et plus bas, pendant qu'elle la guidait à travers les engins de travail, « Ça se trouve bien ! Défense aux enfants et à nos sœurs de venir par ici ! La chambre de Lydie, dans cette aile de retour, est donc à l'abri des curiosités et des indiscrétions. Quand votre fille est arrivée ce matin, il n'y avait là que quelques maçons et la sœur Tourière, une ancienne connaissance à elle, que j'ai chargée de lui monter ses repas, de faire son petit ménage. J'ai mis aussi au courant le médecin, le plus prudent et le plus réservé des hommes, qui, venant voir la supérieure tous les 2 jours, entrera en même temps chez Lydie, dont la chambre est toute voisine. Et je crois que notre chère petite n'eût été nulle part mieux abritée et soignée, ni à la faisanderie, ni à l'ermitage. » « Je le crois aussi, sœur Martha, et c'est vraiment par une inspiration de Dieu que je me suis tournée vers vous, n'osant ramener directement ma pauvre Lydie aux uselles. Mais j'espère que nous n'abuserons pas de votre hospitalité. » Sur ces mots, sœur Martha agitait de longs bras plats et maigres avec sa pétulance irlandaise. « Vous espérez, ah ça,
vous n'allez pas me la prendre tout de suite? Elle est si faible encore, si palote. Ce grand voyage comme première sortie, le docteur lui a bien recommandé de ne pas se lever avant 2 ou 3 jours. Voulez-vous que nous montions la voir ? Ayant ajouté très haut pour être entendu de tous, « Allons saluer notre chère mère supérieure. Vous la trouverez bien changée. » Elle passa la première dans le large escalier au mur d'un blanc de maison mauresque, à la rampe fraîche peinte. Les gros grains de son rosaire, le trousseau de clés qui ne quittait jamais Madame Fénigan, sonnaient dans le grand corridor au fond duquel s'ouvrait la chambre de Lydie. Celle-ci, couchée, toute blanche et les yeux ouverts, étouffa un cri de joie en voyant entrer Madame Fénigan.
« Comment, mère, vous voilà déjà ?»«
Que veux-tu, mon enfant? Je ne pouvais pas dormir. »«
C'est comme moi, »
reprit Lydie en lui montrant que sa chambre, spacieuse et gaie, faisait l'angle de la maison, une fenêtre sur le pays, l'autre sur le petit jardin intérieur où s'ouvraient les classes, où les orphelines jouaient tout le temps que le ravalement encombrait la cour.
« Depuis ce matin, j'entends les enfants chanter et danser en rond, la voix des bonnes sœurs, les leçons qu'on récite. Il me semble que je suis écolière encore et que mon tour va venir. Et la route, notre chère route. Quand vous êtes entrée, j'écoutais tous ses cris, tout son mouvement. »
Madame Fénigan sourit et se pencha vers elle.
« Tu ne me parles pas de Richard ?»«
Je n'osais pas, » murmura la convalescente, dont le long visage amaigri se ternissait douloureusement. Mais à mesure que la mère lui contait l'accueil fait au récit de son voyage et de leur réconciliation, l'explosion de larmes finales, le désir fiévreux, les mains frémissantes de celui qui n'avait jamais cessé de l'aimer, la vie revenait à cette jolie figure comme les couleurs sur une toile soumise au lavage.
« Maintenant, je suis sûre que nos terreurs étaient vaines et que j'aurais dû t'amener droit dans ses bras. Tout à l'heure, je lui avouerai que tu es ici et nous viendrons te chercher demain matin. »«
Oh, pas demain, pas encore, je vous en prie !» dit la jeune femme épouvantée en ramenant ses couvertures d'un geste enfantin.
« J'aurais trop peur, je suis si maigre, si laide. Et puis ça !»
Elle montrait la place étoilée de sa blessure sous le sein gauche.
Le docteur a dit qu'il faudrait me panser plusieurs fois. Et si Richard, en me voyant, allait ne plus m'aimer, ne plus vouloir ?
Mais mon enfant, quand il va te savoir ici, rien ne pourra le retenir.
Laissez-lui croire que je suis encore loin, que ma santé l'exige. C'est un peu la vérité, après tout.
Et s'il veut aller te rejoindre ?
Vous trouverez bien un petit mensonge pour l'en empêcher. Et vous me laisserez quelques jours dans ce coin où ma jeunesse, dans ce coin de ma jeunesse, où il m'a connue, aimée, où je vais reprendre des forces, tâcher de redevenir belle et digne de son amour. »
Dans l'inexprimé de ses paroles et de ses gestes, se devinait comme un besoin de se purifier par la retraite et le recueillement. Il lui semblait qu'entre les murs blancs de l'orphelinat, elle redeviendrait petite fille. Et Madame Fénigan l'a compris si bien que, sans plus insister,
« Ce sera quand tu voudras, comme tu voudras, mon enfant chéri. Ne te fais pas de peine. »
En sortant, elle s'arrêta quelques minutes chez la supérieure pour pouvoir dire à Richard qu'elle l'avait vu et lui expliquer ainsi sa visite à l'orphelinat. À la sœur Martha, qui revisait un mémoire d'entrepreneur au chevet de la vieille religieuse assoupie, elle chuchota «
Décidément, je vous laisse encore notre Lydie pour quelques jours encore. Je viendrai la voir souvent. »
Puis, remontant en voiture,
« À la maison, cette pauvre mère de bourron est bien faible, bien faible. »
Dites à haute voix pour son cocher, ces paroles le firent sourire dédaigneusement du haut de son siège. Il savait à quoi s'en tenir, l'homme du chemin de fer ayant raconté le matin chez la jardinière que Madame Fénigan était descendue du wagon avec une jeune dame très souffrante qu'on avait laissée en passant au couvent de Soisy. Et Richard ignorait encore la présence de sa femme dans le pays, alors que tous ses domestiques la savaient. Pas une maison nombreuse où il n'en soit ainsi.